Hey, mademoiselle! Psst, t'as de belles jambes, tu sais. Psst, hey, tu te retournes quand je te parle?
J'aime la chanson de ma ville, le concerto des sirènes, l'orchestre des klaxons, me diapason. J'aime la chanson de ma ville, le pot pourri des portables, la rythmique des escalateurs, en ternaire ou en binaire. Les aboiements des caniches de ma voisine de palier, à 6 heures du matin, quand elle s'en les promener. Il y a quand même un refrain qui me donne la nausée en plein cœur d'une rue.
Ne me touche pas!
Psst, vas-y, t'aimes ça.
Lâche-moi!
Avec ta tenue, tu l'as bien cherchée?
J'aime la chanson de ma ville, les poèmes écrits sur ses murs, ses lumières qui vibraphonent ad libitum. J'aime la chanson de ma ville, le crescendo de ses voix, de république à la nation, à l'unisson.
Radio Cartable. École d'Ivry.
Bonjour, nous sommes le 21 mars 2024, c'est le printemps.
Vous êtes bien sur 89.4 FM et c'est l'heure de...
Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Nous sommes les CM1 de la classe de Marion à l'école Maurice Thorez B.
Bonjour, je m'appelle Madji et je suis avec...
Yasmine, salut!
C'est moi, Maët.
Et c'est moi, Oudna.
Bienvenue!
Cette semaine, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école.
C'est l'occasion pour beaucoup d'élèves de travailler sur les journaux, la télévision...
La radio! Mais... Qui écoute la radio aujourd'hui? Les personnes de plus de 45 ans, nos parents quoi.
Les gens qui font beaucoup de trajets en voiture.
Les enfants et les jeunes, souvent, ils aiment les podcasts.
Et vous qui écoutez Radio Cartable?
Mais qu'en pensez-vous? Est-ce intéressant d'écouter la radio plutôt que de regarder la télé ou d'aller sur les réseaux sociaux?
Le média importe peu. L'essentiel, c'est que le contenu soit intéressant.
Et sérieux, par exemple, pour traiter de l'actualité.
Oui, tout le monde n'est pas journaliste sur les réseaux sociaux. Place au sommaire.
Voici le sommaire.
À 14h03, on retrouvera la classe de CE1 de Rosaline Franklin pour leur travail autour de l'actualité du mois de février.
À 14h10, les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse nous parlent du spectacle En Apparence. Il a été vu par les CE1 d'Ivry.
À 14h25, les élèves de CE1A de l'école Rosaline Franklin déchiffreront la fiche des essentiels d'un jour une actu.
Le thème est la citoyenneté. Vous la trouverez sur le site de Radio Cartable et cela vous permettra de la lire en même temps que...
À 14h35, suite du cycle d'interviews réalisé par les CM2 de l'école Rosaline Franklin, ils ont eu la chance de rencontrer Philippe Magnès. Il est responsable du service enseignement à la mairie d'Ivry.
C'est son service qui s'occupe des pochettes de début d'année?
Oui, et de beaucoup d'autres choses qui nous concernent, nous, les élèves des écoles primaires.
Enfin, à 14h55, place à la poésie.
Les CE1 de l'école Rosaline Franklin, des passionnés de radio,
espèrent vous donner l'envie d'enregistrer vos propres lectures.
Oui, c'est ça les passeurs.
Et les passeuses de poèmes.
Actualité.
D'ici.
Et d'ailleurs.
Je m'appelle Yasmine, élève de CE1 à Rosaline Franklin. Avec nos camarades, nous allons vous présenter les unes d'un jour, une actu du mois de février.
Diboy Moussa, bonjour, quel était le premier sujet de février?
Bonjour Yasmine, on a pu voir que les agriculteurs étaient en colère.
Ils ont bloqué des routes avec le tracteur.
Vous savez, ils sont en colère parce qu'ils gagnent trop peu d'argent alors qu'ils travaillent énormément.
Espérons que l'État les aide, car c'est eux qui nous permettent de manger.
Merci, Ibrahim Moussa.
Passons à l'actualité de Djenaba et Safia, sous les signes de l'amour, si je ne me trompe pas, Djenaba.
Eh oui, Yasmine, le 14 février, c'était la Saint-Valentin.
C'est la fête des amoureux dans plusieurs pays du monde.
En France, on s'offre des fleurs, des chocolats et des mots doux.
Alors qu'en Thaïlande, c'est un jour porte-bonheur. Au Canada, on fête toutes les formes d'amour, celui qu'on porte pour ses amis ou pour sa famille, par exemple.
Et par quoi terminons-nous ce mois de février, Gaël et Amir?
Dans le dernier numéro d'Un jour, une actu, on s'intéresse au youtubeur Inoxtag.
Pourquoi nous demanderez-vous? Parce qu'il s'entraîne pour grimper au sommet de l'Everest?
C'est quelque chose d'exceptionnel car c'est la plus haute montagne du monde.
Et c'est très dangereux, chaque année des personnes meurent en tentant d'y grimper.
Merci les amis pour ces superbes infos et merci à vous qui venez de nous écouter. À bientôt.
Actualité.
D'ici.
Et d'ailleurs.
Actualité.
Bonjour, je m'appelle Sarna.
Bonjour, je m'appelle Maïssa.
Bonjour, je m'appelle Farel.
Bonjour, je m'appelle Benny. Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitez. Je vais vous présenter Sonia.
Coucou, c'est moi. On va vous parler du spectacle qui s'appelle En apparence. On y est allé avec le centre de loisirs de l'école Maurice Thorez B le mardi 24 janvier.
On va vous présenter Tony Melvin.
Tony Melvin,
c'est un nom de scène.
Il nous a appris un jeu mélanger notre prénom et notre nom et ça donne ça, regardez.
Moi par exemple, ça me donne Errol.
Moi par exemple, ça me donne Benem.
Moi, ça me donne Ainos.
Moi, ça me donne Asiam.
Moi, ça me donne Leraf.
On va vous expliquer comment on a appris le jeu de Tony Melvin. On mélange notre nom et notre prénom et on l'inverse. Maïssa, qu'as-tu retenu de ce spectacle ?
J'ai retenu les costumes, une chanson.
Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine.
Farel, quel costume as-tu préféré et serais-tu capable de le porter à l'école ?
J'ai aimé le pyjama. Non, je saurais pas.
C'est très... Parce que t'aurais trop la
honte. Oui.
Quel message vous fait passer cette chanson ?
La bienveillance.
Oui, et on doit porter ce qu'on veut.
Oui.
Ouais.
Ouais.
Chacun son look, chacun son style.
Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style.
C'est vraiment étonnant, ça peut même paraître un peu paradoxal, mais quand j'enfile mes bottes, alors qu'on pourrait penser que ça pourrait m'alourdir, et ben pas du tout. Je me sens plus léger, presque aérien,
moi aussi.
Un peu. Toi aussi quoi?
Moi aussi je me sens aérien.
Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style, ma dégaine, pas la tienne. Mon look, mon style.
Allez,
allez,
galop. Allez, au galop.
Hop, trop, 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 au galop.
Tony Melvin a joué un personnage
de cow-boy. Il aime les chemises à carreaux.
Il a un pantalon marron.
Il a des bottes de cow-boy marron.
À un moment donné dans le spectacle,
Il avait un chapeau avec des plumes qui forment une crête.
Il joue très bien de la guitare.
Vous voulez qu'on vous raconte un secret ?
Il a peur des chevaux.
Gloria, sur quoi t'as fait réfléchir ce spectacle ?
Déjà, quand on est arrivé, il y avait la dame de la registre. Et moi, j'ai cru que c'était elle qui allait chanter. Mais en fait, non, il y avait des chanteurs professionnels.
Check, check. Bonsoir. Bon, je sais que j'ai pas le bon costume, mais bon, peu importe, enfin, c'est pas si grave si on n'a pas toujours le bon costume. Et puis, je suis sûre qu'un jour, je trouverai la bonne porte. Et puis, c'est ça le plus important, finalement. Et un jour, vous verrez, c'est moi qui serai là, devant vous. Ouais. Bonsoir. Quoi ? Ah oui, les artistes arrivent ? Ok, entrée des artistes.
De la première personne sur le plateau.
C'est une accessoiriste. Ça veut dire qu'elle fait en sorte que le décor du spectacle soit bien.
Elle ramasse les vêtements et apporte d'autres costumes.
À un moment, dans la pièce de théâtre, il y avait un tissu. Elle essayait de le tirer, mais il était bloqué. Et puis, elle s'est fait mal.
Et aussi, dans le noir, elle a donné la robe à l'actrice qui était sur scène.
Normalement, on ne devrait pas la voir, l'accessoiriste.
Mais je pense que ça fait partie de la pièce de théâtre de montrer comment elle retire les objets et les vêtements pour que le décor soit bien, pour montrer que les gens qui aident font aussi partie de la pièce.
C'est pour qu'on la regarde. Et si des spectateurs veulent faire ça plus tard, ils sauront comment il faut faire. Elle aimerait être chanteuse
et actrice.
Et elle y arrive à la fin de la pièce. Elle joue du piano.
Elle n'était pas trop à l'aise au début, mais à la fin, elle a commencé à l'être.
Ça va ? Ça se passe bien pour vous ? Ouais. Ok. Vous savez, moi, je suis sûre qu'un jour, vous vous direz... Mais moi, j'étais là, à son premier concert. Moi, j'étais là, au tout début. Allez, j'espère que vous êtes bien calés sur vos fauteuils. C'est parti! Des plumes.
Maïssa, qu'est-ce qu'il faut faire pour être une star?
Déjà, il faut apprendre son texte, il faut préparer son costume et préparer la pièce.
Il faut être rapide aussi parce que quand on change les costumes, et si on vient de se changer et qu'on n'est pas prêt quand c'est notre tour, c'est pas un vrai comédien.
Voilà.
Habillez-vous comme vous voulez.
Au revoir et à bientôt.
Sur
la radio des écoles d'Ivry.
Bienvenue au théâtre Antoine Vitez.
Il faut avouer qu'on est vénard de vivre au soleil du pognon. On se dort sous les rayons comme un article en magasin. On se jette au fil des saisons, on se vend au gré des besoins. Le monde est beau.
Les astrologues disent que vous êtes tous heureux. À la télé, ils disent que vous êtes généreux. C'est pas grave. Encore un rap sur les sans-abri. Que vais-je dire de plus qui n'a pas été dit? Donc je dédie ces rimes aux opprimés, aux déprimés, aux incompris. À chaque famille brisée sans le savoir, les sans-abri sont bien plus proches que l'on croit. Quoi beaucoup s'étonnent, je déconne. Tous les mêmes souffrances. Soupirer en silence de leur indifférence qui leur reste comme un poids.
Leur point commun reste leur indifférence. Ainsi la misère des autres les laisse indifférents. Je les ai vus ricaner au nez des sans-abri. Ceux croyant à l'abri, ceux dont Dieu les abrite. Aucune compassion, pas une pièce, même pas un sourire. Pas même un soupçon de gentillesse pour ne pas secourir aux déshérités, aux miséreux. Les excuses sont nombreuses pour ceux qui sont désireux de garder pour eux-mêmes ce qu'ils croient avoir acquis. Appartenez à d'autres, appartiendra à d'autres. Ainsi va la vie. Tu verras sur leur trait cette terre supérieure. Richesse extérieure qui cache pauvreté intérieure. Lâche coupable mais libre. Bien pire se croyant meilleur. Ex-magouilleur en costard, futur balayeur.
Ces gens
sont tellement accrochés à leur argent. Ils ont toujours l'impression d'être au bout du rouleau.
En fait ils se trompent de but et cachent une flûte sous leur apparence. En jouent quand il fait bon pour se entendre les jours de chance. Et vivent de faux semblants et en font toute leur vie. Poussent les trous conscience de gestes d'artifice. Espèce de histoire, ceux qui ne font pas tout bas. Vers ses sous à tous les dons et se foutent de ce qui se passe en bas de chez eux. Mais quand les blêmes les concernent, ils savent tous se taire. Tout le monde peut avoir une vie toxicomane ou un fils qui fait des bénéfices avec des busiles ici. En attendant que ça nous arrive, on se félicite. Et le fils a des bonnes notes dont le plébiscite. Sache que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Même si tu fais semblant qu'un rêvera que tu te vaux. C'est pour ça qu'on est tous tristes. L'égoïsme se transmet de père en fils. Mettre un gosse au monde de l'héroïsme.
Il faut que t'enseignes la charité avant que ce monde féroce ne les imprègne de vanité. Avant que ce monde atroce ne leur apprenne que marcher sur les siens est de bonne guerre. Ingrédient nécessaire à leur réussite. Triste société d'égoïstes m'attriste mes cœurs. Car au contraire d'être j'ai du cœur de l'amour. Chaque cœur qui bat
issu du bas. Je vise le haut, pour ça je me bats. Mon combat a ses limites, car je veux être des gens bien. Avoir des principes comme Kima, Kusti ou Zinzin. Mais trop boulot, dodo, appétit, c'est une vie stable. Mais ça, ce style de vie qui leur donne cette arme d'été. Cette arme d'été froide, froid, jusqu'à l'effroi. Vivre en été, mais en qui ces gens en qui ces gens courent alors que l'État ne fait que reculer leur retraite. Ils ont placé père et mère sans pitié en maison de retraite. La 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 la.
Vous venez d'entendre « Sans abri » sur l'album d'Oxmo Puccino qui s'appelle « Opéra Puccino » et c'était avec Kerry James.
À quoi ça sert de faire du sport ?
J'aime beaucoup faire du sport.
C'est vrai que les garçons sont égaux aux filles ?
Débat, c'est intéressant ou pas?
X-Sagesse. X-Sagesse.
Bonjour, nous appelons Essia, Jaïli, Adulbasset, Ritej, Rad, Sita, Nahil et Rayana.
Nous sommes les élèves de la classe CE1A dans l'école Rosaline Franklin à Ivry-sur-Seine.
Au mois de février, avec les essentiels d'un jour inactuel, nous sommes demandés c'est quoi un citoyen.
Un citoyen est une personne qui vit sur un territoire et qui respecte des conditions.
Chaque pays a ses règles.
Les deux sollicitations en haut de notre affiche.
Nous faut devenir les deux conditions pour être un citoyen français.
Il y a une carte d'identité avec un drapeau français.
On comprend donc que pour être un citoyen français, il faut avoir la nationalité française.
Sur la carte d'identité, il y a aussi un drapeau de l'Union européenne, car quand on est un citoyen français, on est aussi un citoyen européen.
La deuxième illustration, c'est un gâteau d'anniversaire.
Il a la forme de la France, il est bleu, blanc et rouge, la couleur du drapeau France. Il y a des bougies qui forment un 18 dessus.
C'est à 18 ans qu'on devient majeur en France et qu'on devient un citoyen.
Avant, on s'entraîne à le devenir.
Lorsqu'on est un citoyen, on a des droits, mais aussi des devoirs.
Nous devons, par exemple, respecter des lois pour pouvoir vivre tous ensemble.
Un autre devoir qui est très important et qui est illustré sur notre affiche, c'est le devoir de voter.
Tous les citoyens doivent voter.
Ce n'est pas obligatoire, mais c'est ce qu'on appelle un devoir moral.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Classe de CM2A, école Rosanie Franklin. Aujourd'hui, nous allons faire l'interview de Monsieur Philippe Magnez. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, les quelques mots que je vais dire, c'est plus sur ma situation personnelle. C'est-à-dire que je suis papa de 4 enfants qui sont très grands maintenant, et donc qui, comme vous, ont été à l'école. Et moi aussi, quand j'étais plus jeune, je suis aussi allé à l'école.
Depuis quand travaillez-vous à la mairie d'Ivry ?
J'ai commencé de travailler à la mairie d'Ivry en 1992. Au départ, j'ai travaillé au service des sports et j'étais responsable d'une structure sur le quartier Pierre et Marie Curie, qui est sur le plateau. Et depuis 2001, je suis responsable du service enseignement.
Présentez-nous votre service. Quelles en sont les missions ?
Le service enseignement est composé de 8 personnes qui travaillent avec moi. Et nos missions, c'est de gérer toutes les écoles de la ville, soit les écoles maternelles, élémentaires ou les écoles primaires. Ça, c'est une obligation des communes. Les communes doivent gérer les écoles. Après, il y a les collèges. Vous, l'année prochaine, vous allez au collège. C'est les départements qui gèrent les collèges. Les missions du service, c'est de pouvoir créer les meilleures conditions d'accueil pour vous, les enfants, mais aussi les conditions de travail pour les enseignants, pour le personnel technique, pour les animateurs. Et notre rôle aussi, c'est de pouvoir accompagner toutes les activités qui se déroulent sur le temps scolaire. Quand, par exemple, vous faites une sortie pédagogique, vous prenez un car, l'enseignante et la directrice de l'école s'adressent au service enseignement pour que nous, on puisse voir pour la réservation du car. Voilà, c'était un petit exemple, mais il y en a plein d'autres.
Quand vous étiez jeune, vouliez-vous faire ce métier ?
À votre âge, en fait, je voulais être, ou un peu plus petit, je voulais être pompier, danseur, acrobate, voilà, j'ai voulu faire plein de choses. Après, j'ai fait plein de travail, j'ai fait des études aussi différentes, et je dirais que là, le poste que j'occupe, c'est ce qui correspond en fait à une suite presque logique de ce que j'ai pu faire pendant mes études ou au travers de différents travaux que j'ai pu effectuer.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors j'ai déjà un petit peu répondu juste avant. Comme j'ai travaillé comme animateur au départ, mais j'ai fait des études de technicien en bâtiment génie civil, et puis j'ai fait aussi des études de sociologie. Et puis après, je suis rentré donc dans la fonction publique territoriale. Et là, j'ai suivi des formations en droit, en management, pour gérer des personnes. Et tout ça, ça m'a permis d'acquérir plein de compétences. Et avec ces compétences, ça m'a permis de pouvoir postuler sur les postes que j'ai eus au niveau de la ville d'Ivry.
Quelles sont les étapes et les formations nécessaires pour devenir responsable du service scolaire ?
Alors, les étapes, c'est déjà rentrer dans la fonction publique territoriale. Ensuite, c'est passer des concours pour pouvoir acquérir à la fois des formations et des concours. Des formations pour acquérir des compétences et puis des concours, puisque dans la fonction publique, on a différents concours qui existent. En fait, le métier de responsable du service des affaires scolaires, c'est un métier où on touche à plein de choses. On va toucher au suivi de construction d'un groupe scolaire, par exemple. La construction de ce groupe scolaire-là, moi, je l'ai suivi avec d'autres collègues. Mais on travaille aussi avec les enseignants ou avec les classes. Je ne sais pas si vous avez participé, par exemple, au projet de la maison de l'architecture. Il y a peut-être des classes de votre école qui y ont participé. Donc, on travaille aussi sur un peu des aspects pédagogiques, entre guillemets, pour vous accueillir et mettre en place des activités qui vous intéressent et qui vous permettent d'apprendre en fait un certain nombre de choses. C'est pour ça que le métier, c'est pas un métier comme ça, c'est pas comme être boulanger ou être garagiste. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit et qui nécessite de pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc.
Alors, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ?
En fait, ce que j'aime dans mon travail, c'est pouvoir venir dans les classes et être accueilli par vous avec un sourire, par les enseignants avec un sourire, par les personnels qui travaillent, que ce soit les personnels techniques ou les animateurs, avec un sourire. Ça veut dire que, bah, quelque part, j'ai bien fait mon travail puisque tout le monde a l'air content.
Quelle est votre mission principale ?
Alors, ma mission principale, en fait, c'est tenir compte de tout ce qui a pu se passer, qui était bien, qui n'était pas bien, pouvoir s'en servir pour pouvoir faire des choses dans le présent. Et puis, surtout, mes missions à moi, c'est de penser dans l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je réfléchis à des groupes scolaires qui doivent être construits en 2029 ou 2030. Vous voyez ? Donc moi, mon rôle, c'est vraiment de penser à l'avance les choses pour voir après comment on peut les mettre en place. Parce qu'un groupe scolaire, ça ne se construit pas comme ça. S'il y a besoin d'adapter un certain nombre de choses, il faut les penser, il faut les anticiper pour que, effectivement, après, ça puisse se mettre en place le plus simplement possible.
Quelles sont les difficultés liées à votre mission ?
Alors, les difficultés liées à mes missions, ça rejoint un petit peu ce que je voulais faire quand j'étais tout petit, où je disais je voulais être acrobate. En fait, il faut avoir une grande capacité de gymnastique dans la tête. Parce qu'il faut penser à ce qui s'est passé, au présent, à l'avenir. Il faut parfois se déplacer dans une école parce qu'il y a un événement urgent et puis il y a besoin d'adapter l'organisation de mon travail qui était prévue. Donc ça, parfois, ça peut être difficile. Et à ce titre, tout à l'heure, après l'interview, on verra par rapport à ma collègue qui devait être là avec moi aujourd'hui, mais qui n'a pas pu être là parce que effectivement, il y a des urgences ailleurs et donc il faut s'organiser. Donc des fois, c'est pas simple.
Comment fonctionne une mairie ?
Est-ce que vous connaissez le nom du maire ? Philippe Bouissou. Voilà, tout à fait. Donc Philippe Bouissou, il a avec lui des conseillers municipaux et des adjoints au maire qui travaillent avec lui et qui sont ce qu'on appelle le côté politique d'une commune. Ils ont été élus par les habitants, donc ils ont établi un programme avec un certain nombre de choses qui étaient identifiées, comme quoi ils s'engageaient à mettre en œuvre tout ça pendant le mandat pour lequel ils étaient élus. Donc ça, c'est une partie de la mairie. Et après, il y a tous les services qui existent à la mairie qui sont là pour mettre en œuvre les décisions qui ont été prises par les élus.
Comment prenez-vous les décisions concernant le service enseignement ?
Alors, il y a plusieurs sortes de décisions. Il y a parfois des décisions qui ne concernent que notre service, que le fonctionnement de notre service, et là, c'est nous qui les prenons. Parfois, il peut y avoir des décisions qui concernent notre service, mais d'autres services. Donc ça, on se met en relation avec les autres services, on travaille ensemble, et puis on prend une décision ensemble. On a aussi des décisions qui se prennent avec les directions d'école, parce que c'est des questions qui concernent l'école, et on a besoin d'échanger, de réfléchir ensemble, de faire des propositions et de trouver la meilleure des solutions. Et on peut avoir aussi des décisions qui sont avec votre inspectrice de circonscription, qui sont aussi avec l'administration générale de la commune, mais qui sont aussi en relation avec les élus. Donc on a plein de formes de prise de décision. En tout cas, un des rôles du service enseignement, c'est de toujours apporter des éléments qui vont permettre aux élus de décider.
Pouvez-vous nous expliquer votre travail concernant le projet de la Cour Oasis ?
Alors, Christelle Legard, vous l'avez déjà certainement vue dans l'école, parce qu'elle vient aussi souvent dans les écoles. Elle travaille donc avec moi et elle s'occupe du suivi de tous les travaux ou tout ce qui se passe dans les écoles. Et à ce titre, c'est elle qui a suivi les travaux, ce que vous avez fait en lien avec le CAUE. Et d'ailleurs, je crois que vous avez interviewé quelqu'un du CAUE récemment. Et donc, c'est elle qui suit avec le CAUE et après avec les services techniques, toute la réalisation du projet. Parce que le projet, on le réfléchit, après on regarde combien ça coûte, puis après il faut faire les travaux pour le réaliser. Et donc son travail, c'est de faire tout ça et de faire remonter aussi des décisions, parce que faire les travaux dans une cour d'école, ça coûte de l'argent, et donc à un moment donné, il va falloir que les élus décident s'ils veulent mettre cet argent pour faire les travaux dans la cour.
Où trouvez-vous le budget pour financer ce dont les écoles ont besoin ?
Tous les ans, on prépare le budget pour l'année suivante. Donc là, nous, par exemple, au service enseignement, depuis du mois de septembre au mois de décembre, on a préparé le budget pour l'année 2024. Et de septembre à décembre 2024, on préparera le budget pour 2025. Quand on prépare le budget, on regarde un certain nombre de besoins, on essaye de les quantifier, de savoir combien ça va coûter, et ensuite, on fait des propositions aux élus, en leur disant, voilà, vous souhaitez faire ça, ça coûte tant. Et là, ce sont les élus donc, qui décident si c'est oui ou si c'est non. Et ensuite, nous, on a les crédits, donc l'argent qui permet de pouvoir réaliser toutes ces actions.
Avec quel service travaillez-vous ?
Alors, on a la chance d'être un service enseignement, qui travaille avec tous les services de la ville. Tous. Il n'y a pas un service avec qui on n'est pas en relation. Dans la ville, il y a plus de 60 services. Donc on peut être en relation avec des services techniques pour des travaux de bâtiment ou des travaux dans la cour. On peut être en relation avec les services d'état civil parce qu'ils vont nous donner les enfants nés à Ivry et ça va nous permettre, nous, de savoir que ces enfants, dans 3 ans, ils vont arriver dans une école. On peut travailler avec les services d'urbanisme. Le service d'urbanisme, c'est ceux qui s'occupent, par exemple, de l'aménagement du quartier, ici, avec Ivry Confluence. Et on travaille avec eux, par exemple, sur où est-ce que va être construit le prochain groupe scolaire sur le quartier. Et il y a quand même un service avec qui on travaille beaucoup plus. C'est le service qui s'occupe des personnels techniques et des animateurs qui sont dans les écoles, qui est rattaché à la même direction que nous. Donc on travaille vraiment au quotidien, on est en relation vraiment avec eux.
Êtes-vous habitué à venir dans notre école et à quelle occasion ?
Quand je viens sur une école, c'est comme aujourd'hui, pour répondre à vos questions. Des fois, c'est parce que j'ai besoin de rencontrer la directrice ou les enseignants ou le personnel technique. Et puis des fois, j'aime bien venir dans les écoles comme ça, par surprise. Je ne préviens personne. Je viens voir parce que il y a tellement d'écoles sur la ville que de temps en temps, moi, j'ai besoin aussi d'aller dans les écoles pour revoir un petit peu comment sont les choses. Et ça me permet, après, de pouvoir tout de suite visualiser quand une question m'est posée, je vois de quoi il s'agit. Alors que si je ne venais pas dans l'école, je ne verrais pas de quoi il s'agit.
Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne un conseil municipal ?
Alors, le conseil municipal réunit tous les conseillers municipaux, les adjoints au maire et le maire. Il se réunit tous les 2 mois. Et les services, donc, on prépare ce qu'on appelle des exposés des motifs, où on explique et où on aide à la prise de décision par le conseil municipal, puisque c'est lui qui va prendre la décision. Et quand le conseil municipal prend une décision, il y a ce qu'on appelle une délibération. Voilà, tout ça, ça part en préfecture. Enfin, après, il y a des circuits administratifs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment... Il y a des dossiers qui préparent les points qui doivent être abordés dans le conseil municipal et ensuite il y a des délibérations qui sont prises et les délibérations sont publiques, c'est-à-dire qu'après elles sont affichées partout, elles sont consultables sur le site internet de la ville. Donc si vous avez de la curiosité, vous pouvez aller sur le site internet de la ville, vous verrez conseil municipal, vous verrez toutes les personnes qui le composent et vous pourrez voir aussi toutes les questions qu'ils ont à traiter et quelles décisions ont été prises.
Comment ou de quelle manière travaillez-vous avec monsieur le maire Philippe Bouissot ?
Alors avec Philippe Bouissot, on a une relation de travail qui est très facile parce que déjà il est attentif, il est à l'écoute quand on lui parle. Et ensuite, moi j'ai eu la chance, comme je suis sur le service enseignement depuis 20 ans, monsieur Bouissot, avant d'être maire, a été adjoint au maire aux écoles. Donc j'ai eu l'occasion, moi, depuis de très nombreuses années, de le rencontrer, de travailler avec lui sur tout un tas de questions. Aujourd'hui, il m'arrive de le rencontrer et de travailler avec lui sur des points vraiment très précis. Et c'est souvent à l'occasion de réunions qui sont organisées avec des partenaires extérieurs à la commune.
Avez-vous déjà marié un couple ?
Alors, moi, personnellement, je n'ai jamais marié un couple. Ce sont mes collègues qui travaillent au service état civil qui accompagnent les conseillers municipaux qui, eux, peuvent marier un couple. Voilà, parce que nous, au niveau des autres services de la ville, on peut aller dans la salle des mariages pour la voir. Elle est très jolie d'ailleurs. Hein. Si vous avez l'occasion de visiter la mairie, allez la visiter, c'est superbe. Mais voilà, c'est le service état civil où il y a des personnes du service qui assistent les conseillers municipaux quand il y a des mariages.
Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ?
Je voudrais juste que la dernière idée que je vais évoquer soit en direction des collègues qui travaillent avec moi au sein du service enseignement. Si, au niveau du service, on arrive à créer tout ce qu'il y a autour de vous, c'est pas parce que moi je suis responsable ou moi je suis tout seul. J'ai aussi plein de collègues avec qui je travaille et c'est grâce à eux aussi qu'on arrive à faire les choses. Une chose qui est importante, c'est le travail d'équipe. À plusieurs, on va plus loin. Et à plusieurs, on est beaucoup plus riche parce que chacun peut avoir des idées. Et le fait de les partager, bah, ça permet de pouvoir réaliser des trucs super. Moi, je vous remercie de m'avoir invité. Parce que j'aime bien aussi qu'on m'invite.
De rien. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Enfin le printemps. Vise-moi, Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, voilà. La voilà, le printemps tout fleuri de lilas qui réplique en dansant la java. Le voilà, ce voyou au son de l'accordéon qui court le guille doux en poussant la chanson. Entend comme sa chahute dans tous les palpitants, l'hiver se tire des flûtes. Enfin le printemps, ne fais pas la tête, tu serais bien bête de te faire du mouron. Quand sur toute la terre flotte un petit air de révolution, j'ai choisi pour toi ma robe de soie, mes colifichets, pour dormir sur l'herbe en écoutant tinter les muguets. Vise-moi, Jules, cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas qui réplique en dansant la java. Il y a la foule dans l'air nu qui suit les orphéons, des épaules toutes nues et du monde au balcon. C'est la fête aux poètes, je t'aime éperdument et ça tourne dans ma...
Tape sur la tête, boum, et se retape sur la tête, boum, boum.
Et maintenant, mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en grande première mondiale le
poème du poète. C'est pour dire tout cela et mille et mille et mille autres choses, pas besoin de comprendre.
Bonjour, je m'appelle Aylan et je vais vous réciter le poème au carnaval. Au carnaval du Rio, les musiciens jouent du banjo, on danse la salsa et la rumba, le tango et le cha-cha-cha. Au carnaval de Venise, tout le monde se déguise, rencontre des princes et des marquises, des lionnes et des souris grises. Au carnaval de Nice, c'est un véritable délice, on se lance des confettis, des serpentins et des grains de riz.
se retrouve en avril pour une nouvelle émission inédite.
Et maintenant sur 89.4 FM,
vous retrouvez votre émission littéraire Bibliomanie.
Au revoir.
Radio Cartable. La radio des écoles d'Ivry.
Matin, nous allons visiter un studio d'enregistrement. Ah, allez, suivez-moi et en silence. Allez.
On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près. Faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Mes bonnes bêtises, je m'en souviendrai toujours. À croire qu'il y avait un concours du truc le plus interdit à faire un mercredi. Mes bonnes bêtises, elles ne sont pas si loin. Je revois encore le coin. J'y grattais pendant un bail, la peinture qui s'écaille. Notre poésie, c'était peinard, et sans corbeau, et sans renard, qu'on l'écrivait. À grands coups de pied dans un ballon, une vitre en moins, je prends du galon. Je grandissais. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. Les bonnes bêtises, c'était entre copains. Qu'importe si t'étais Rupin. On était tous légal, notre frangin de mandale. Mais les bonnes bêtises, on a beau les faire en bande. Y'a une règle dans la truande, c'est à celui qui s'y colle qu'il arrive des bricoles. Ma plus belle femme, sans aucun doute, celle du crapaud et du mammouth qui explose. Depuis que je l'ai touché au lance-pierre, ma petite sœur garde une paupière. Pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras qu'un saut dans une flaque, ça vaut bien toutes les paires de claques. On n'est pas à une bêtise près, faisons-la et voyons après. Tu verras que sonner au port et s'enfuir avant qu'on sorte, ça vaut le coup.
Thank you.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo des Cailloux, que je salue au passage et qui nous réserve quelques surprises. Aujourd'hui, nous allons faire une belle balade en forêt en compagnie de Dominique Roch, qui nous avons déjà reçu, qui est cueilleur d'essence. Nous avons parlé de parfums, la première émission que nous avons fait ensemble avec Dominique Roch, et qui vient de publier un livre passionnant qui s'appelle « Le parfum des forêts », sous-titré « L'homme et l'arbre, un lien millénaire » aux éditions Grasset. Alors Dominique Roch, bonjour.
Bonjour.
J'ai lu donc avec grand intérêt votre livre, qui est un peu pour moi le second volet, disons le volet complémentaire de votre première aventure, du cueilleur d'essence. Et c'est un livre un petit peu paradoxal, je dirais, puisque vous faites... Vous parlez du bûcheron qui est censé, qui est l'homme qui abat les arbres, tout en faisant, et là c'est un peu un pari difficile, l'éloge de la forêt et des parfums de la forêt. Alors, comment est venue l'idée de ce livre, Dominique Roch ?
Bon, je crois que le livre, tout simplement, il est l'aboutissement de mon propre parcours, de ma propre passion pour les arbres et les forêts, qui est un jour rencontré celle du parfum. Et effectivement, je suis tout à fait lucide sur le côté un petit peu paradoxal de ce livre, puisque au fond, ce que je cherche à dire, ce que je ressens profondément, le message de base, c'est quand même, pour moi, les forêts sont éternelles. Mmh. Et elles sont éternelles, trois points de suspension, en dépit de ce que les hommes leur font. Et c'est cette affaire qui m'a passionné, c'est-à-dire... les forêts, elles ont 370 millions d'années qu'elles sont sur Terre, donc elles ont fait plein de choses avant qu'on arrive, nous. Et puis l'homme arrive, pendant quelques dizaines, peut-être même quelques centaines de milliers d'années, il ne se sert de la forêt comme d'un abri, un abri incroyable, un abri qui lui apporte tout, la sécurité, de quoi manger, la cohabitation avec les animaux. Et puis avec l'invention du métal, le monde bascule, véritablement bascule. Et je raconte l'histoire du premier bûcheron du monde, c'est l'âge de bronze, c'est loin, hein, on est en moins 3000. Et tout d'un coup, on va passer presque instantanément de l'arbre vivant à l'arbre mort. Mmh. Et c'est cette histoire que je trouve fantastique, qui est intéressante à raconter pour comprendre ce qu'est devenu les enjeux de la forêt aujourd'hui.
Enjeu de la forêt, vous dites, dans ce livre, j'ai voulu raconter l'histoire des arbres, de leur exploitation, partager le parfum de mes rencontres avec quelques forêts d'exception, dire la fragilité. Alors, c'est aussi votre histoire, toujours, hein, qui est entremêlée, vos racines se mêlent aux racines des arbres, Dominique Roch. Et il y a un bel hommage à votre père, qui était bûcheron. C'était un aventurier, votre père.
Oui, je crois qu'il a été aventurier comme beaucoup de gens à la sortie de la guerre. Il y avait un appétit de vivre, un appétit de découverte, un appétit de laisser derrière l'horreur de ce qu'on venait de vivre. Et lui est parti aux États-Unis à la découverte de l'Amérique, qui était encore bien plus mythique en 1949 qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Et en cherchant des activités, en cherchant à vivre tout simplement, il a travaillé dans des scieries, puis il est devenu bûcheron, jusqu'à ce qu'il arrive en Californie et qu'il se retrouve à être bûcheron des plus grands arbres de la Terre, qui sont les séquoias de la côte ouest. Et évidemment, quand il nous racontait ça, à ma sœur et à moi, enfants, on était assez fascinés par ça. Et en plus, il avait ramené d'Amérique les premières tronçonneuses qu'il a pris sous son bras pour aller faire des démonstrations dans les forêts françaises qu'on exploitait uniquement à la hache. Mmh. Et donc,